Je vous invite à prier. Éternel, illumine notre lecture et notre compréhension des Écritures. Notre esprit a besoin de ton esprit. Trop de choses nous impressionnent et nous font vaciller. Dans l'incompréhensible, comme dans ce qui nous paraît clair, de notre existence et du monde, tiens-nous à l'écoute de ta parole. Amen. Nous lirons ce matin dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 2, les versets 13 à 23. Après leur départ, c'est le départ des mages. Donc après leur départ de lieu où ils ont adoré l'enfant et offert leur cadeau. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire disparaître. » Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, se retira en Égypte et y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il fit supprimer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaos était devenu roi de Judée à la place d'Hérode, son père, il eut peur de s'y rendre. Divinement averti en rêve, il se retira en Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise des prophètes, il sera appelé Nazoréen. C'est un récit qui paraît bien effrayant. Un de ceux qui font que bien des personnes, se lançant seules dans la lecture de la Bible, referment rapidement le livre en disant que tant de violence, c'est insupportable. Commencer à lire le Nouveau Testament par le début, donc avec l'Évangile selon Matthieu, commencer à le lire en quête d'une bonne nouvelle et au chapitre 2, se trouver confronté au récit du massacre des petits-enfants, c'est une expérience qui en a rebuté plus d'un. Comment Dieu peut-il laisser faire une telle horreur? Et puis envoyer un ange pour sauver l'enfant de Marie et rien pour tous les autres petits-enfants de Bethléem et des environs? En mettre un à l'abri et abandonner les autres? Comme s'il n'y avait pas assez de récits et d'images de massacres d'aujourd'hui de par le monde, sur tous les continents, hommes, femmes, enfants, livrés à la violence, alors qu'ils n'aspiraient qu'à vivre chacun chez soi, avec les siens, hommes, femmes et enfants qui sont tués au nom d'intérêts particuliers, de pouvoir, de cupidité, de religion, d'idéologie, de haine et d'exclusion. Alors bien sûr, Matthieu indique de cette manière que la venue au monde de Jésus le Christ dérange bien des puissants. L'évangéliste annonce ainsi la mort de Jésus qui n'échappera pas à la vindicte des religieux, des politiques, de ceux que ses actes et paroles mettent trop précisément en question. Ce Jésus qui vient bousculer leur assurance et leurs prétentions. L'Emmanuel, le prince de la paix, Jésus, n'est pas né dans un monde merveilleux. Aucun enfant ne naît dans un monde merveilleux. Et justement, ces quelques versets de l'Évangile tracent une représentation du monde qui nous donne, par sa justesse et sa nuance, à réfléchir, à penser, à méditer, à prier. Chers amis, dans notre temps, il y a encore des rois Hérode qui ne reculent devant rien pour se maintenir au pouvoir. Nous sommes aujourd'hui au temps du roi Hérode, et c'est dans ce même temps que le Christ vient au monde. Au début du chapitre 2, averti par les mages de la naissance du roi des Juifs et par les scribes et les grands prêtres que sa naissance avait eu lieu à Bethléem, Hérode tente de manipuler les mages pour être informé du lieu précis où se trouve l'enfant. Mais les mages font échouer la manœuvre en retournant dans leur pays par un autre chemin, sans repasser par le palais d'Hérode. C'était le récit de la fête de Noël, ici, avec les enfants. Alors ce n'est plus la ruse qu'emploie Hérode, c'est la force brutale, brute, cruelle, impitoyable. Il fait tuer les enfants. C'est le massacre des innocents, dont les nombreuses représentations picturales rendent compte de manière saisissante de l'horreur, de l'effroi que ce récit a inspiré et inspire encore. Matthieu prête à Hérode les traits de Pharaon, figure de l'oppression égyptienne sur les Hébreux dans le livre de l'Exode. Pharaon qui ordonne que les garçons des Hébreux soient tués à la naissance par crainte que ce peuple devienne trop nombreux et menace la structure de son régime. Les Hébreux sont esclaves et les Égyptiens les dominent. Un tel modèle ne cesse d'être reproduit à travers l'espace et le temps jusqu'à aujourd'hui. Et le récit de Matthieu est absolument historique. Non pas dans le sens où un tel massacre aurait été perpétré lors de la naissance de Jésus. Aucun historien de l'époque n'en fait mention, et en même temps Hérode en aurait bien été capable. Mais ce récit est historique parce que ce qui est décrit dans ces quelques lignes est inscrit et répété au fil de l'histoire jusque dans l'actualité. Et cela aussi bien dans la démesure de la violence générée par le pouvoir et la peur de le perdre que dans l'espérance. L'espérance représentée par la figure de Joseph. Joseph le juste, puisque c'est cette qualité que Matthieu lui attribue dès qu'il le met en scène dans l'Évangile. Joseph, qui était un homme juste. Dans le livre de l'Exode, deux sages-femmes égyptiennes s'opposent aux ordres iniques de Pharaon. Puis c'est la mère de Moïse qui veut sauver son enfant en le confiant au fleuve dans une boîte, dans une arche. Dans l'évangile de Matthieu, Joseph, visité en songe par un ange, fuit avec l'enfant et sa mère jusqu'en dans cette Égypte, devenue ainsi terre de salut, car il n'est pas de pays qui soit condamné, définitivement maudit pour le mal qui y a été commis, et qui ne puisse devenir à son tour lieu de refuge. L'ancien pays du massacre des enfants devient pays d'asile pour l'enfant menacé. L'ancien pays de la violence cruelle devient le pays où l'enfant peut grandir. Il en est bien ainsi encore aujourd'hui, et l'évangile de Matthieu nous invite à y être attentifs. Oui, la violence déborde et fait des ravages, mais tous n'y cèdent pas. Et il est des hommes et des femmes qui disent non à la destruction, non au mal, et oui à la vie, et qui agissent en conséquence. Joseph le juste, devant ce chaos tout proche, fuit. Il part pour protéger l'enfant parce que dans cette circonstance, il n'y a pas d'autre issue. Ce n'est pas que Dieu s'absente quand le mal et le malheur surviennent. Ce n'est pas non plus qu'il en soit la cause. Jamais. Ce n'est pas non plus qu'il fasse du favoritisme sur le petit enfant Jésus par rapport aux autres enfants de Bethléem, tout l'évangile de Matthieu et les trois autres et tout le Nouveau Testament nous disent à quel point Dieu n'est pas partial. Mais c'est que tout passe toujours par nous, de l'acte le plus atroce à l'inspiration la plus féconde. Il n'y a que l'humain qui puisse devenir inhumain, et il n'y a que l'humain qui puisse devenir véritablement humain. Et Dieu n'intervient pas autrement qu'en suscitant en l'être humain l'appétit, le désir de vie, de justice, de paix, d'amour. Et il n'y a rien de plus fragile qu'une telle inspiration si facilement négligée ou étouffée. Et tous les Hérodes de la terre enfouissent ou étouffent en eux ce qui fait résonner l'appel de la vie pour autrui. Ils n'en ont pas été privés. Chaque personne, quelle qu'elle soit, est reliée à la source de la vie, en ce lieu de l'être que nous pouvons appeler l'âme. Et le témoignage de l'évangile de Matthieu et des trois autres évangiles, c'est aussi que Dieu se lie à chacun en offrant la vie vivante. Et cependant, Hérode et ses semblables se relient et se livrent principalement à une autre puissance que celle de la vie donnée, une autre puissance comme celle de la convoitise, qui est aussi celle de la violence. Hérode et ses semblables se laissent envahir par les ténèbres, jusqu'à en perdre la raison, jusqu'à en perdre la mesure de ce que sont l'humain et l'humanité. Et dans le récit de Matthieu, cette mesure, c'est celle des enfants de moins de 2 ans, impuissants, dépendant, infiniment fragile. Et c'est aussi la mesure de Joseph, fuyant avec l'enfant et sa mère, la mort qui les menace. Fuir pour trouver ailleurs un refuge, il y a là de quoi faire vibrer en beaucoup d'entre nous la fibre huguenote, en mémoire des persécutions religieuses, une mémoire qui devient vive en compassion et en solidarité envers les exilés de tous les temps qui cherchent un asile pour vivre, seulement vivre, et qui ont besoin de souffle pour fuir et d'espérance pour avancer. Car la compassion et la solidarité sont des formes de l'espérance. Les exilés fragiles, précaires dans le monde, sont eux aussi la mesure de l'humanité face à la démesure des Hérodes contemporains. L'évangile de Matthieu nous rend attentifs et sensibles à leurs histoires d'humains, histoires toujours terribles et pourtant souvent soutenues de traces, de lueurs de confiance, de bonté et d'encouragement. Ces histoires d'humains en fuite, en exil, travaille nos cœurs et nos esprits, nos consciences et nos intelligences, nos manières de vivre et nos choix de vie. Joseph, l'homme juste, est à l'écoute de l'inspiration intérieure pour la vie. Elle est signifiée dans ce récit par le motif de la visite de l'ange dans un songe, 3 fois. Joseph est à l'écoute. Il se tient attentif en son âme et conscience. en relation avec la divine inspiration, pour discerner justement ce qui vient de cette divine source intérieure par laquelle la vie devient possible, la justice devient possible, la paix devient possible, la joie devient possible. Joseph a déjà entendu l'ange lui dire dans un précédent songe : n'aie pas peur de prendre Marie chez toi. N'aie pas peur. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'avoir peur. Nous ne pouvons pas empêcher la peur de survenir, de surgir. Mais nous pouvons ne pas nous laisser asservir par elle, grâce à ses récits, grâce à des lieux, des communautés, des personnes avec lesquelles on peut parler des peurs. Joseph, qui a déjà accepté de devenir le père de l'enfant de Marie, comprend alors quel sens il doit suivre devant la menace d'Hérode. Partir pour sauver l'enfant. C'est l'espérance que de trouver un sens dans une situation terrible. Non pas attendre que le mal et le malheur cessent, mais se tenir relié à la voix intérieure qui communique avec la source divine et travailler, réfléchir à cette question : qu'est-ce que c'est qu'être humain dans cette situation ? Et Joseph sauve la vie de l'enfant. Malgré le déchaînement de mort que le roi Hérode fait s'abattre sur Bethléem et ses environs, comme ces déchaînements de violence et de mort qui s'abattent encore et qui font que des pleurs et des lamentations se font entendre à Rama et dans d'autres lieux. C'est Rachel, tant de mères, tant de pères, qui pleurent ses enfants. La citation du prophète Jérémie fait référence à une tradition des Écritures hébraïques selon laquelle Rachel fut ensevelie par son époux Jacob, non pas dans le tombeau de la famille dans la grotte de Macpéla à Hébron, ni même à Bethléem, mais sur le chemin, au bord de la route. Et Rachel, considérée comme la mère des Hébreux, se releva de sa tombe pour pleurer lorsque les exilés furent emmenés loin de chez eux, qu'ils passèrent sur la route, après que Jérusalem eut été détruite au prix de nombreux morts. Matthieu n'a pas cité la suite des paroles de Jérémie. C'est au chapitre 31 du livre du prophète Jérémie. Et voici cette suite. Cesse de sangloter, cesse tes larmes, car il y aura une récompense pour tes actions, déclaration de l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espoir pour ton avenir, déclaration de l'Éternel. Tes fils reviendront dans leur territoire. La suite de la citation, c'est une parole d'espérance. Matthieu ne l'a pas citée, mais il a mis en scène Joseph, le juste, figure d'espérance pour l'avenir. Joseph a accueilli dans son existence la dynamique de vie qu'est le Christ, encore tout petit enfant. Mais cela suffit pour changer le cours des choses, pas pour le monde entier, mais là où l'on se trouve. Cela suffit pour que le futur soit transformé en avenir, pour que le comportement d'une personne change, pour qu'elle se détourne de la violence et de la convoitise, pour choisir la bonté et la vie. La bonté et la vie sont des enfants, comme des enfants, que nous pouvons aider à grandir, sur lesquels nous pouvons veiller, que nous pouvons protéger. Et cela suffit pour empêcher Hérode de réussir son projet de tuer l'enfant de Marie. De même qu'à l'autre bout de l'Évangile, la mort sur la croix échoue à anéantir le Christ. Nous sommes au jour du roi Hérode, un autre, d'autres rois Hérode, et c'est le jour où le Christ vient dans le monde. Il n'y a pas que des Hérodes prêts aux plus terribles exactions pour maintenir leur pouvoir. Il y a des Joseph, des justes, qui prennent soin de la bonté et de la vie et de l'espérance. Il n'y a pas que des ténèbres. Il y a des lumières, des lueurs, des petits lumignons ou de simples braises, autant de porteurs du Christ, attentifs à le laisser grandir en eux, pour autrui. Et surtout, chers amis, il y a les deux en nous, n'est-ce pas ? Un peu de Hérode, auquel nous pouvons dire non, et un peu du Christ, à qui nous pouvons dire oui. Et cette part du Christ en nous, inspiration, aspiration à la bonté et à la justice, qui nous relie les uns aux autres et à tous en humanité, cela, c'est une espérance pour le monde d'aujourd'hui. Amen.